Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de ArchiPro, une application web et mobile de gestion de projets de génie civil développée par de jeunes Ivoiriens.
Parce que l'Internet a rendu ce monde sans permission. On n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour produire quelque chose. Face à deux situations, voilà, il faut toujours choisir celle qui te met le plus en difficulté dès maintenant.
Bonjour et bienvenue. Ici Alain Madogo, vous écoutez actuellement PGC, le podcast du génie civil. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Ntapé. Jérémy est un ingénieur génie civil ivoirien avec plus de 6 ans d'expérience professionnelle. Après ses études réalisées en Côte d'Ivoire, il a passé une partie de sa jeune carrière dans un laboratoire géotechnique de la place en tant qu'ingénieur spécialiste des matériaux de construction avant de rejoindre une entreprise dans le milieu des hydrocarbures. Dans cette entreprise, Jérémy est dans un rôle de maître d'ouvrage et il a en charge des projets d'investissement génie civil. À travers cet épisode, il nous fait découvrir ces deux univers par des explications tout à fait accessibles à tout le monde. En plus de son travail à plein temps, Jérémy a aussi à son actif une newsletter et un blog relatif au génie civil et un ouvrage spécialisé qui vulgarise les équipements lourds de construction. De mon côté, j'ai pris du plaisir à réaliser cet entretien avec Jérémy. J'espère que cet épisode lèvera le voile sur une partie du génie civil et que vous apprendrez beaucoup de choses. Sur ce, je vous laisse profiter des échanges que j'ai eus avec lui. Bonsoir Jérémy.
Salut Asir.
Comment tu vas ?
Très bien, et toi ?
Oui, ça va. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans ce premier épisode du podcast.
D'accord.
Tu fais partie des premières personnes auxquelles j'ai pensé dès que j'ai eu l'envie de lancer ce podcast parce que tu as, comment on va dire ça, tu es différent.
Ah bon?
Et tu as certaines choses à ton actif, donc vraiment j'aimerais qu'on discute un peu de ça.
D'accord.
Tu peux déjà te présenter pour que les auditeurs puissent savoir qui est Jérémy Ntapé et qu'est-ce que Jérémy Ntapé fait.
D'accord. Alors donc je suis, comme tu l'as dit, Jérémy Ntapé à l'état civil. Donc je suis de formation ingénieur des travaux publics, donc, diplômé de l'école supérieure des travaux publics ex-ENSTP. Je suis de la promotion 2014. Voilà. Et donc pour la petite histoire sur le parcours, je suis entré en école préparatoire en 2010. Voilà. Juste après le bac de 2009, je suis entré en école préparatoire. Là-bas, j'ai fait 2 ans et ensuite, j'ai abordé le cycle ingénieur par voie de concours. Et ce cycle ingénieur a duré 3 ans, au bout duquel je suis sorti comme ingénieur des travaux publics.
Voilà.
Deux ans de classe préparatoire, c'est ça. Ouais.
Deux ans de classe préparatoire.
Technologique, effectivement. C'est ça. 2 ans de classe préparatoire technologique. Et après le concours, il y a eu un concours à l'issue duquel je suis entré en école d'ingénieur. Et là, j'y ai fait 3 ans. Voilà, 3 ans pour terminer en 2014. Voilà pourquoi je dis que je suis de la promotion de 2014. Et depuis lors, bon, je travaille. Voilà, je suis actif. Voilà, je suis dans la vie active.
Voilà, ok. Mais avant de vraiment commencer le volet vie active et autres, est-ce que tu peux nous discuter quel était ton parcours, ton cursus scolaire? Tu as commencé l'école primaire ou tu as fait quoi comme lycée et plus bon?
D'accord. Ok, donc j'ai commencé à l'école primaire. Je veux dire, la première école que j'ai intégrée s'appelait l'école Les Perles. C'était à Yopougon, Trois-Rouges. L'école existe encore, mais bon. Ça fait quand même peut-être 3 ans que je ne suis pas passé devant. L'école existe encore. J'ai fait les 2 premières classes de CP. D'accord. Et ensuite, à partir de la classe de cours élémentaire, je suis allé en école publique. Et cette école-là, toujours au Trois-Rouges, puisque c'est là-bas que la famille réside. Voilà. Donc, j'ai intégré l'école primaire qu'on appelle EPP Moutry, École primaire publique Moutry. Okay. Voilà, donc c'est de là-bas que j'ai eu le CPE, il est entré en 6e. Et à la suite de ça, j'ai fait le collège et le lycée au lycée municipal d'Atekoubé. Voilà. C'est celui-ci à Bobo-Dioulasso. Voilà. C'est un des plus anciens lycées, hein, parce qu'il a été construit en, si je ne me trompe pas, en 1991. Voilà.
Un des plus anciens lycées de la ville d'Abidjan, c'est ça?
C'est ça. Ouais. Donc c'est là-bas que j'ai eu le bac. Voilà. Donc, j'ai fait la sixième à la terminale dans ce lycée-là. C'est là-bas que j'ai eu le bac. Juste après le bac, normalement, j'ai intégré d'abord le NCA, où j'ai fait, on va dire, 3 mois, puisque j'avais passé le concours d'agent technique de l'époque. Donc, j'y ai fait 3 mois, et la suite de ça, quand les résultats du concours d'entrée à l'INPHB, donc une classe préparatoire des grandes écoles de l'INPHB, sont sortis. Bon, finalement, j'ai opté pour ces classes préparatoires-là. Donc c'est à cette occasion que je suis entré à Yamsoko. Je suis Yamsoko en classe préparatoire technologique.
Ah, donc, tu aurais pu ne pas être ingénieur génie civil, alors?
Oh oui, j'aurais pu ne pas être. Ça n'a tenu qu'à un fil.
OK. Pourquoi le génie civil? Qu'est-ce qui a motivé ce choix?
OK. Je dirais que, contrairement à la plupart des gens, j'ai pas mûri l'idée d'être ingénieur depuis que j'étais petit. Le ingénieur était des travaux publics depuis que j'étais petit. On va dire, jamais de mon esprit. Et que, au fil des rencontres, finalement, ce parcours-là s'est consolidé pour dire que oui, c'est un parcours dans lequel je peux me lancer. Donc, ça a été motivé par les perspectives économiques du pays. Puisque en 2011, au moment où je passais le concours, on sortait de la crise électorale de 2010. Donc, il y avait quand même une certaine dynamique qu'on sentait. Voilà, on avait déjà les tendances que le pays allait se lancer dans beaucoup de travaux et tout. Et du coup, le métier de travaux publics, sonnait comme une bonne affaire. Voilà. Et ensuite de ça aussi, il y a eu l'idée de vraiment comprendre ce métier-là, parce qu'il y avait beaucoup, c'est un métier dans lequel il y a beaucoup de... Il y a un aspect scientifique, un aspect technique qui est assez intéressant, en plus d'un aspect pratique, voilà. Un aspect pratique de construction, où tu vois les choses que tu as pensées, que tu construis, sorties de terre, qui sont visibles par tous. Voilà, c'est cet aspect-là également qui a joué, voilà, dans ma motivation d'embrasser ce métier.
D'accord. Maintenant, après le diplôme d'ingénieur en 2014, tu embrasses la vie active.
C'est ça. Exactement.
Tu nous en dis plus?
Ouais, d'accord. Bon, donc j'ai de 2014 à maintenant, j'ai fait grosso modo 2 entreprises. La première entreprise, c'est le laboratoire de travaux publics où j'ai fait, on dirait, environ 5 ans. Donc c'est une entreprise, on va dire, c'est une SACPRM, c'est-à-dire que c'est une entreprise dans laquelle l'État est l'actionnaire majoritaire. Donc, okay. Elle s'occupe de tout ce qui est études géotechniques, qui font partie de la construction, mais qui précèdent l'aspect travaux et l'aspect études. Donc, je suis entré là-bas et là-bas, je travaillais beaucoup plus sur les aspects de matériaux, voilà. Ce qui était matériaux de construction. Donc, par là, ils font entendre le béton, ils font entendre le fer à béton, ils font entendre le ciment, ils font entendre tout ce qui était matériaux de construction. Je travaillais dessus. Donc, comme j'ai dit, c'est un laboratoire, donc du coup, c'est beaucoup plus de tests qu'on fait là-bas. Donc, on fait des tests, on fait des propositions de formulation de béton, etc. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant, on va dire, grosso modo, 5 ans. Et à la suite de ça, j'ai eu l'occasion de bifurquer.
Excuse-moi, avant de continuer, je sais que okay. Sur ton profil LinkedIn, on peut voir que tu as fait de l'ingénierie de matériaux, l'expertise de construction. Est-ce que tu peux vraiment parler un peu plus amplement de ça pour que les auditeurs puissent savoir que le génie civil, c'est pas seulement construire des routes?
Effectivement, d'accord.
Donc, l'ingénierie de matériaux, okay. C'est quoi exactement?
Donc, l'ingénierie des matériaux, je vais prendre, aller dans un temps de façon par exemple. Donc, lorsque une entreprise veut se lancer dans la construction, d'un bâtiment.
Oui.
D'un bâtiment, voilà. Pas une petite maison, hein. Je parle d'un bâtiment, par exemple, un immeuble de grande hauteur, voilà. Généralement, on utilise du béton pour faire ce genre d'ouvrage-là. Donc, l'entreprise, lorsqu'elle veut se lancer, elle a besoin de faire certaines études. Donc, c'est pas n'importe quel type de béton qui peut être utilisé. Voilà. Donc, le béton, il répond à une certaine classification, il répond aussi à une certaine composition. Donc, cette entreprise approche un laboratoire, et donc ce laboratoire, il est chargé de proposer sur la base d'un cahier de charges, sur la base d'un certain nombre d'exigences. L'entreprise, le laboratoire est chargé de proposer un béton qui satisfait ces exigences-là et donc qui permettra à l'entreprise de construire, de faire le projet qu'elle veut avec le matériau béton. Donc, pour cela, le laboratoire va faire des tests sur les éléments qui composent le béton. Donc, par exemple, le sable. L'entreprise, le laboratoire va faire des tests sur le sable pour voir est-ce que le sable que l'entreprise veut utiliser, est-ce que ce sable-là, il est propre, vu qu'il ne faut pas utiliser du sable sale pour construire parce que la saleté peut réjaillir. Si vous faites du béton qui contient, par exemple, des taches avec du sable, qui contient des taches et tout, si vous faites du béton dans l'aspect du béton, il est fort probable que ces taches puissent ressortir. Donc, ça va faire un dégradé qui ne sera pas esthétique. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut regarder. Donc, le sable que l'entreprise va utiliser sera testé de cette manière-là. Maintenant, en termes de béton, le béton a un certain nombre de comportements qu'on appelle, généralement, on appelle ça de la rhéologie. Donc, c'est dit comment est-ce que le béton, la façon dont le béton épouse les formes et tout. Donc, il y a ces aspects-là qu'il faut regarder. Et cette capacité du béton à épouser les formes pour qu'on puisse donner une forme ronde, parallélépipédique, cette caractéristique dépend aussi en partie du sable qui est utilisé. Donc, oui. Ce sable, on va faire par exemple des tests où on va étudier la finesse de ce sable. Donc, la finesse, c'est de rechercher les éléments fins qui sont dans ce sable pour voir est-ce que ces éléments fins, par rapport à l'expérience qu'on a du métier, est-ce que le sable qu'on utilise aujourd'hui contient suffisamment d'éléments fins ou ne contient pas trop d'éléments fins qui vont perturber le comportement du béton qu'on recherche. Voilà. Oui. Donc, il y a ces tests-là qu'on fait aussi. Au niveau également des granulats, donc il y a des graviers, c'est comme de façon, on va dire, commune, tout le monde appelle ça du gravier, c'est le bloc de pierre qui se trouve dans le béton. Ils ont une importance aussi dans la capacité du béton, dans les caractéristiques, dans la qualité du béton. Donc, on fait des tests là-dessus. Ces tests-là nous permettent, par exemple, de mesurer la durée de ces blocs de pierre. Donc, cette durée va avoir, bien évidemment, un effet sur la qualité du béton. Voilà. Donc, on fait des tests dessus. On fait des tests également sur le ciment qui va servir au béton. On fait des tests également sur l'eau qui va servir à fabriquer le béton. Généralement, les tests sur l'eau, par exemple, interviennent beaucoup plus pour des chantiers où on va faire usage de l'eau de forage parce que cette eau-là, c'est une eau qu'on tire directement du sol. Donc, on ne connaît pas plus ou moins ses caractéristiques. Donc, il faut également la tester. Voilà. Donc, grosso modo, le but du laboratoire, c'est de lever l'inconnu sur les matériaux. Parce que plus tu ne maîtrises pas, plus tu ne connais pas quelque chose, moins tu as la liberté de l'utiliser comme tu le sens. Voilà. Donc, le laboratoire, il fait des tests qui permettent de bien préciser la qualité du matériau qui est en face de soi, de sorte qu'on puisse savoir comment l'utiliser. Donc, on fait ces tests, c'est ce qui concerne, voici ce qui concerne l'ingénierie des matériaux. À part ça, il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles on peut rentrer. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'aspect peut-être expertise, si j'embraye dessus.
Oui, attends, avant d'aller sur l'expertise, j'aimerais ajouter quelque chose. Tu as parlé de propriété du sable, de modules de finesse. Il faut aussi ajouter que, si tu me permets, hein, bien sûr,
ouais.
comment on appelle ça, la propriété du sable, c'est un paramètre qui peut avoir un impact sur, comment on appelle ça, la résistance finale du béton.
C'est ça.
Et comme tu l'as dit, en fonction du cahier de charge, on a différentes résistances qui sont demandées souvent par les clients. Donc, en fonction de la propriété du sable, de la résistance des granulats et tout, ça nous permet vraiment d'avoir un béton qui est ouvrable, qui épouse les formes, un béton qui est résistant, c'est-à-dire qu'on atteint vraiment les résistances demandées au délai, on va dire à 28 jours. Puisqu'il n'y a pas de 28 jours, le béton, il n'évolue plus.
C'est ça.
Mais au fait, ce que tu dis là, c'est intéressant parce que généralement, en ville, les gens, ils décident de construire une maison, ils ne contactent pas de laboratoire, ils ne contactent pas d'ingénieur. Et puis, on fait des mélanges comme ça. Bon, OK, il y a du sable, il y a du gravier. On mélange deux bourrettes de sable, deux bourrettes de gravier, une bourrette de sable, on met du ciment et puis, bon, paf, c'est parti. Je pense que c'est peut-être tout ça qui est à l'origine de tous les sinistres. Pas seulement ça, mais ça ouais. fait partie des causes des sinistres qu'on observe ces temps-ci.
C'est tellement. C'est
donc,
tellement.
Pour les auditeurs, j'espère que vous comprenez que c'est important de contacter un laboratoire ou bien un ingénieur pour lui confier ses travaux. Parce que ce que Jérémy dit actuellement, c'est des choses que le commun de mortel ne sait pas. Et ce sont des informations vraiment à savoir.
Ouais.
Okay. Ok, Jérémy, tu peux continuer.
D'accord, ça marche. Donc, je disais que l'autre aspect que tu as évoqué sur mon... et que je mentionne sur mon profil LinkedIn, c'est l'expertise des ouvrages. Donc, par expertise, on va dire que c'est un travail qui consiste à faire une sorte de... En anglais, on dit forensic, c'est quoi? C'est des enquêtes. Donc, l'idée, c'est de... Un ouvrage, j'explique à partir d'un exemple. Donc, vous avez, par exemple, un bâtiment qui présente des fissures sur tout ce qui est élément de ossature. Donc, je parle de structure, oui. Donc poteau, poutre, béton ou bien voile, mieux voile.
C'est qui maintient l'ouvrage en question.
Voilà, c'est qui permet de le maintenir debout. Donc, vous avez un ouvrage qui présente des fissures comme ça. Donc, vous ne savez pas pourquoi ces fissures-là sont là. Parce que, comme tu l'as dit, là, on a fait deux bourrettes de ça, une bourrette de gravier, on a pris du fer comme ça, on a mélangé, on a mis le tout, on a monté, on a coulé. Voilà, et l'ouvrage est là, mais il présente des fissures. Donc, l'expertise, c'est une discipline qui consiste à venir interroger l'ouvrage pour savoir qu'est-ce qui peut être comme cause à l'origine de la pathologie qu'on observe, donc les fissures. Donc, on dit pathologie parce qu'effectivement, c'est une sorte de maladie de l'ouvrage. Un ouvrage, on ne construit pas pour qu'il y ait des fissures là-dessus.
Bien sûr.
On le construit selon certains états. État de service, on dit état limite de service, la parenthèse, pour nos auditeurs qui font encore des coups de béton armé, c'est ça en fait, un ouvrage qu'on veut construire, c'est pour un état de service. Dans l'état limite de service, c'est juste qu'on essaie de calculer l'ouvrage à la, comment on dit, à la limite, à pouvoir, est-ce que si on dépasse ce seuil-là, est-ce que cet ouvrage continuera d'exercer la fonction pour laquelle on le construit? C'est juste ça, l'état limite de service, voilà. Donc, ça, c'était pour la parenthèse.
Pour un ajout, il y a généralement deux états. Hein, l'état limite de service et puis l'état limite ultime.
C'est ça.
Le premier, c'est-à-dire qu'on dimensionne l'ouvrage de telle sorte qu'à partir d'un certain seuil, il n'arrive plus à assurer son service. Et le deuxième, à partir d'un certain seuil, il est vraiment en ruine.
Ouais, c'est ça. L'état de ruine. Voilà. Super. Donc, du coup, l'expertise, c'est cette discipline-là qui permet d'approcher les ouvrages dans le but de rechercher les causes qui sont à l'origine ou qui seraient des facteurs du désordre qu'on constate, donc de la pathologie qu'on constate. Donc, je m'occupais de ça quand j'étais encore au laboratoire des travaux publics. Laboratoire des travaux publics. Donc, je faisais ça. Ça c'était assez intéressant, franchement, je dis c'était assez intéressant parce que ça me permettrait de rencontrer des gens, d'essayer d'apporter une certaine éclairance à des gens qui voient leur ouvrage, qui ne savent pas pourquoi leur ouvrage est dans un problème. Donc, le fait de pouvoir apporter un certain nombre d'éléments qui éclairent, en fait, qui éclaire leur compréhension de pourquoi la chose, c'était assez intéressant. C'est assez intéressant. Donc, je fais ça pendant, comme j'ai dit, 5 ans, grosso modo, voilà, avant de continuer.
D'accord. Oui, on y va, la suite.
D'accord. Et après donc après le LBTP, voilà, je suis entré dans une entreprise qui évolue dans le secteur du pétrole. Bon, je ne pourrais pas dire le nom de l'entreprise parce que dans.
Non, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà. Il n'y a vraiment pas de souci parce que c'est le métier en question qu'on veut vulgariser. Donc, on n'a pas besoin de nommer l'entreprise. Si...
Exactement. D'accord. Donc, je suis là-bas. Là-bas, je la fonction de maître d'ouvrage. Donc, maître d'ouvrage, c'est-à-dire que c'est nous qui. C'est pour nous qu'on construit. Donc, on est chargé de mettre en place tout ce qui est infrastructure qui va permettre de faciliter la vente de carburant. Donc, ces infrastructures-là, c'est du génie civil, parce que ce sont des infrastructures qui sont construites et tout, voilà, c'est du génie civil. Donc là, j'occupe la fonction de maître d'ouvrage. Donc, je suis dans le service qui s'occupe du design, qui s'occupe également de tout ce qui est aspect administratif qui précède la construction et qui s'occupe également de la fonction même de maître d'ouvrage durant toute la durée de la construction de l'infrastructure et également après, lorsque la facture est terminée, lorsqu'elle rentre en exploitation, je continue d'occuper la fonction de maître d'ouvrage. Et là, je m'occupe de ce qui est aspect contractuel lié à l'ouvrage. Parce que dans l'ouvrage, il y a beaucoup de... Je prends par exemple, supposons que je construis une station-service, par exemple, on ne la construit pas forcément sur un terrain qui nous appartient. Donc, le terrain peut appartenir à quelqu'un d'autre. Donc, il y a ce qui veut dire qu'il faut contracter avec la personne, on dirait, ne serait-ce que la location du terrain. Donc, après la construction de l'ouvrage, il y a toute une gestion des relations. C'est un peu de la relation publique, une gestion des relations avec nos différents bailleurs, avec nos différents partenaires qu'il faut faire. Donc, j'ai été bien à ce niveau-là aussi. Donc, je suis là, ça fait maintenant 2 ans. 2 ans que je suis là, que je suis dans ce secteur-là.
Ok, donc c'est-à-dire que tu as quitté du laboratoire où tu étais en griffe un contrôleur.
Ouais.
Et tu es maintenant dans une position de maître d'ouvrage.
C'est ça.
Pour les auditeurs qui ne sont pas du domaine, le maître d'ouvrage, c'est le propriétaire de l'ouvrage. C'est-à-dire que moi, à la Maduro, je décide de construire un immeuble. Je suis le maître d'ouvrage dans le jargon du génie civil.
C'est ça.
En plus de ça, moi, je vais contacter peut-être une entreprise qui sera l'entrepreneur pour faire les travaux et aussi peut-être un bureau d'études pour vraiment s'assurer que tout est réalisé comme il se doit, selon les règles de l'art. Généralement, le maître d'ouvrage, lui, il n'a pas la compétence. Ça n'empêche pas qu'il ait souvent un ingénieur en interne qui lui permet de mieux comprendre les choses.
C'est ça.
Donc ça, c'est vraiment pour les auditeurs qui ne sont pas du domaine et aussi pour, on va dire, les étudiants. Parce que l'un des objectifs de ce podcast, c'est de permettre aux plus jeunes, on n'a pas eu cette chance, mais on leur donne ça,
effectivement,
de comprendre le métier, de voir un peu tout ce qu'on a la possibilité de faire et puis, bon, à la suite, faire des choix judicieux, quoi.
C'est ça. C'est vraiment ça l'enjeu de ce truc-là.
Ok. Donc, Jérémy, tu nous as parlé de ton parcours, mais en plus de ça, à la maison, tu ne te reposes pas parce que tu as ton actif une newsletter hebdomadaire qui se nomme « Lire et construire » que tu as lancée depuis 2019.
C'est ça.
Tu as aussi un blog « CV Engie ».
Ouais.
Et aussi, en 2019, tu as écrit un manuel de l'équipement lourd de construction.
C'est ça.
Il faut que tu nous dises un peu qu'est-ce qui a motivé tout ça et quel a été le processus. Tu choisis, tu veux commencer par quoi?
D'accord, on va commencer par le blog, donc CBNG. Donc, comme tu l'as dit d'entrée de jeu, c'est des choses que nous n'avons pas eues et qu'on aurait aimé avoir lorsqu'on était plus jeune et qu'on commençait, on abordait les métiers. Voilà. C'est vraiment ça qui m'a motivé à écrire ce blog parce que j'ai vu qu'il y avait un vide. Il y avait un métier qui était là. Dans ce métier, il y avait certaines choses qui étaient bonnes à dire, mais qui n'étaient pas forcément dites. Et généralement, le génie civil, c'est un métier, on va dire, insider. C'est vraiment des gens qui sont d'initiés. Donc, ce sont des gens qui sont dedans, qui généralement se côtoient, qui généralement échangent des informations entre eux et tout. Mais il y a très peu de canaux qui font le lien entre le public et le génie civil, et les gens du génie civil, le domaine en lui-même. Donc, l'idée, à travers CVNJ, c'était d'aller vers le public, des gens non avertis, comme on dit, pour leur présenter ce qu'il y avait dans le génie civil. L'idée, c'était de pouvoir écrire à travers des textes, de pouvoir parler du génie civil dans un langage pas technique, donc pas
accessible.
Plus ou moins accessible, voilà. C'est un langage commun. Voilà. C'était avec moins de jargon et tout, pour pouvoir facilement faire connaître ce métier dans lequel j'évoluais. C'est ce qui m'a motivé à écrire, parce que bon, on dit que c'est bon de se plaindre, mais souvent, quand tu as l'occasion de faire plus que te plaindre, faut pas hésiter, quoi. Voilà.
Bien sûr.
Je pensais qu'il n'y avait pas de, ce genre d'outil là. Donc j'ai lancé l'outil. Voilà. J'ai lancé l'outil. Il a fait son petit bonhomme de chemin, et ensuite j'ai lancé aussi lire et construire, parce que là c'était un choix technologique. Voilà. Je trouvais que le blog ne me permettait pas forcément d'avoir des interactions avec les lecteurs, avec ceux qui le posent, avec ceux qui l'attiraient, alors que par le mail c'est plus facile de répondre, d'échanger avec quelqu'un qui fait un commentaire et tout, et c'est je trouve que c'est beaucoup plus direct, parce que tu sais exactement le nombre de personnes qui reçoivent ce que tu diffuses, et oui, tu sais également tout, c'est comme si ça rendait possible une relation de one to one, donc de personne à personne, mais sur une base commune qui est l'outil qui permet de diffuser la newsletter. Donc c'est ce qui m'a motivé à basculer sur cette technologie là, pour pouvoir continuer tout ce que je fais, voilà. Et d'accord, après voilà,
okay. Excuse-moi, pour la newsletter, pour des personnes qui ne sont pas averties, est-ce que tu peux me dire c'est quoi une newsletter?
D'accord. Donc une newsletter, c'est un système qui te permet d'envoyer des emails. D'accord. Ça permet d'envoyer des emails de façon organisée, et ça te permet d'envoyer des emails à beaucoup de personnes en une seule fois. Donc si par exemple les emails, tout le monde les utilise généralement dans le milieu professionnel, c'est vraiment, l'email est devenu incontournable. Donc généralement tout le monde a un email, a une adresse email. Donc c'est la même chose, c'est basé sur cette technologie, le fait de pouvoir envoyer des messages à quelqu'un, mais à la différence c'est que ça te permet d'envoyer des emails à ce qu'on appelle une liste de diffusion. Donc un ensemble de personnes qui te donnent leur email et qui te donnent leur adresse email et à qui tu peux envoyer tes messages.
Et c'est-à-dire que tu n'envoies pas ça à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a certaines personnes qui disent que ce que tu produis comme contenu, vraiment, ça nous intéresse, on aimerait recevoir ça régulièrement.
C'est ça, ouais.
D'accord.
Okay. Exactement.
Avant de continuer, le blog, il est toujours actif, tu continues toujours la production de contenu à ce niveau?
Là, franchement, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas écrit sur ce blog-là.
Il y a une raison particulière?
Oh, la raison, c'est que le temps commence à manquer, franchement, pour pouvoir s'asseoir et produire des choses de qualité et tout. Le temps commence à manquer, parce que je fais beaucoup de choses, même en dehors du génie civil, je fais beaucoup de choses, donc ça a forcément un coût, comme on dit, un trade-off. Quand tu fais beaucoup de choses, savoir qu'il y a des choses que tu vas devoir ralentir et tout, ce temps-là, il faut le partager, voilà. Donc du coup, il y a des choses qui sont liées. Voilà, donc du coup, le blog, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas écrit dessus. La newsletter, ça fait peut-être 2 mois que je n'ai pas encore envoyé de mail à la liste de diffusion. Mais néanmoins, les idées sont là. Voilà. Il faut juste que je puisse trouver du temps.
Il faut juste savoir le temps, s'asseoir.
Et puis continuer. Voilà. Mais déjà, les éléments qui sont là restent comme en archive. La bonne chose, c'est que c'est tous ces éléments que je produis, il y a des archives qui sont là. Donc, ça permet aux gens de toujours les consulter, voilà, parce que c'est sur Internet. Donc, sur Internet, quand tu diffuses quelque chose, ça reste pour, oui, pour longtemps.
Pour l'éternité.
Ça reste pour longtemps, voilà. Donc, voilà, pour l'éternité, comme on dit. Donc, c'est l'avantage de pouvoir produire du contenu et de le diffuser. Voilà. Donc, ça est, je continue là. Ce que j'ai produit pendant ces presque 3 ans d'activité sont là. C'est là. Et donc, ça peut être consulté et tout le temps que je puisse produire de nouvelles choses.
D'accord. Et donc, pour la suite, on va parler du manuel qui est plus ou moins le couronnement de tous ces deux, deux trucs-là, ou bien c'est pas lié?
Si, c'est lié. Parce que le manuel, c'était vraiment l'aboutissement de tout cet engagement que j'ai eu pour l'écriture, pour écrire, agencer des idées et tout. Donc, le manuel, il s'est dessiné quand même depuis dès que j'ai commencé le blog. J'avais ça en tête, mais je n'avais pas encore formulé sur quel thème je comptais travailler, qu'est-ce qui pourrait intéresser les gens, qu'est-ce qui pourrait leur être utile. Donc, c'est au fur et à mesure que j'écrivais, que je produis du contenu, que l'idée s'est précisée jusqu'à ce qu'en 2019, je puisse sortir ce manuel.
D'accord. Mais le constat que moi j'ai fait, c'est qu'en 2019, si j'ai bonne mémoire, tu étais encore au LBTP.
Exact.
Et tu étais dans l'ingénierie des matériaux et l'expertise de construction.
Si, si.
Je ne vois pas vraiment le lien entre l'ingénierie des matériaux, l'expertise de construction et puis les équipements lourds de construction.
Ouais. Voilà. Donc, ça a été pour moi un challenge. Voilà. Un challenge parce que, comme tu l'as souligné, de base, le métier que j'exerçais n'était pas lié à ce thème-là, mais on a l'avantage d'avoir fait, j'ai eu l'avantage d'avoir fait une formation généraliste, une formation dans laquelle j'ai pu voir un certain nombre de choses, donc il y avait des éléments qui restaient en germe, donc, comme tout ce qui était l'aspect travaux, aspect terrassement et tout, c'était en germe parce que j'avais abordé ces notions au cours de la formation. Et donc moi, le challenge cette fois-ci, c'était de pouvoir produire de quelque chose qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais, pour toujours me prouver à moi-même.
C'était un challenge personnel.
Cet aspect, c'était un challenge personnel. Voilà. L'idée, c'était de me prouver à moi-même que cette dimension généraliste là, je l'avais toujours maintenu, que je n'étais pas devenu quelqu'un qui était figé à cause du métier qu'il faisait au jour le jour. Voilà. Donc, ça a été un challenge pour moi de pouvoir trouver ces informations, les comprendre, les synthétiser et pouvoir les rendre dans une forme de bouquin, voilà, accessible. Donc, ça a été un challenge que j'ai réalisé, on va dire, en un mois. Hein. Voilà, un mois, mais pendant un mois, je bossais du lundi au lundi. Et dès que je descendais du boulot, du LBTP, j'étais sur mon ordinateur. J'avais l'avantage de ne pas encore marié, de ne pas avoir d'enfant, du coup, et j'habitais à cette occasion à Seul. Donc, du coup, c'était assez facile, quoi. Donc, dès que je descends du boulot, je mange, je suis sur l'ordinateur jusqu'à 2h, 3h du matin, je me lève. Donc, pendant un mois comme ça, c'est ce que je faisais jusqu'à ce que je puisse produire l'ouvrage et le mettre. Ça a été vraiment une très belle expérience que je n'hésiterai pas à recommencer. Voilà.
Je pense que après la phase de création de contenu, il y a eu la phase démarche administrative pour pouvoir éditer un livre. Peut-être que d'autres auditeurs aimeraient bien le faire, mais bon, ils ne savent pas comment s'y prendre. Étant donné que tu as déjà une expérience dans ce domaine, tu peux peut-être nous expliquer comment tu as procédé.
D'accord. Donc finalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas édité avec un éditeur classique. Pourquoi? Parce que je suis enseigné, donc pendant que j'écrivais le bouquin, j'avais commencé à déjà me renseigner et tout. Déjà, il n'y a pas d'éditeur en Côte d'Ivoire spécialisé sur le génie civil. Il n'y en a pas. Donc, il y a des éditeurs pour la littérature, les livres jeunesse et tout, voilà. Mais il n'y a pas d'éditeur spécialisé sur le génie civil. Pour en trouver, il faut sortir du pays. Généralement, il faut aller dans les pays occidentaux, asiatiques et tout, voilà. Donc, ce qui était déjà hors de question parce que je suis ici. Voilà. Et donc, l'autre alternative qui s'est présentée à moi, c'est de produire le livre comme un e-book. Voilà. Donc, un livre numérique. Donc, aujourd'hui, avec l'outil Internet, comme le dit quelqu'un dont la pensée m'inspire assez, qui s'appelle Naval Ravikant. Il dit que le monde dans lequel on vit là, voilà, est un monde sans permission. Parce que l'Internet a rendu ce monde à sans permission. On n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour produire quelque chose. Donc aujourd'hui, c'est pour produire un livre, on n'a pas besoin de demander la permission à quelqu'un d'avoir de l'aval de quelqu'un pour produire un livre. Donc ça m'a motivé, ce qui m'a motivé à me lancer à faire d'abord un e-book. Donc un e-book, c'est pour faire un e-book, on n'a pas besoin d'éditeur. Voilà, on n'a pas besoin d'éditeur. Il faut juste soi-même aller à fond, pouvoir rassembler les informations, pouvoir les assimiler et puis les rendre à nouveau de la manière la plus accessible possible. Donc, c'est sur cette base-là que j'ai d'abord fait l'e-book. Donc, j'ai fait et je l'ai diffusé. D'accord. Et à la suite de ça, pourquoi j'ai pu faire une version papier? Donc, il y a un aîné. Donc, dans le milieu, généralement ceux qui ont dans l'école de laquelle je viens.
Oui.
De laquelle je viens, ceux qui t'ont dévancé, on les appelle généralement les aînés, c'est-à-dire qu'ils ont, ils en sont passés par la même formation avant toi. Donc, d'accord. Il y a un aîné qui a découvert ce que j'ai fait, qui m'a approché, qui a dit, ah, mais c'est une super initiative, qui était vraiment enthousiasmé par ce que j'ai fait, par ce que j'ai pu accomplir. Donc, il a décidé de pouvoir financer l'impression de ces, de l'e-book en format papier. Ouais. Donc, c'est de cette manière-là que j'ai pu produire une version papier. Voilà. Donc, à la base, je partais pour faire un e-book. Voilà. Et ensuite, j'ai pu faire une version papier.
Donc, en réalité, ça veut dire qu'il faut juste commencer et puis la suite se fera, en fait. Si tu attendais d'avoir les moyens pour lancer la version papier avant de lancer ton e-book, tu n'aurais jamais de manuel aujourd'hui.
Jamais, jamais.
Je pense que ça, c'est une leçon pour nous tous.
Rêver de ça.
Ouais. D'accord, vraiment, ouais. Merci pour ce partage d'expérience. Est-ce que dans le métier du génie civil, vraiment, que ce soit au LBTP ou là où tu es actuellement dans la société pétrolière, il y a vraiment des challenges auxquels tu étais confronté ou bien tu es confronté actuellement et tu aimes relever?
Ouais. Donc, il y a un aspect, actuellement, je suis confronté à un challenge qui m'a permis, mine de rien, de m'intéresser à autre que le génie civil, c'est-à-dire à m'intéresser à ce qui est investissement, ce qui est outil d'investissement et tout ce qui est actions, obligations et tout, les marchés boursiers.
D'accord.
Donc, je suis arrivé là-bas, c'est vraiment quand je suis arrivé dans la boîte dans laquelle je suis que c'est. Cet aspect de ce domaine d'activité aussi m'a accroché. Donc dans le job comme ce que je fais, comme j'ai dit, c'est un job de maître d'ouvrage. Donc qui dit maître d'ouvrage dit comme tu l'as dit, propriétaire de l'ouvrage. Donc c'est lui qui dit qu'il veut construire une chose. Voilà, la particularité dans une société, c'est que on ne construit pas. Par exemple, si moi je veux construire une maison, j'ai juste besoin d'avoir envie de construire une maison, j'ai pas à faire d'autres plus de calculs que ça.
Bien sûr.
Alors que quand c'est une société, pour construire une infrastructure, il y a l'aspect rentabilité qu'il faut immédiatement regarder. Ouais. Donc il faut, qui dit aspect rentabilité dit aspect investissement. Et c'est vraiment c'est quand je suis arrivé dans cette société que j'ai vu qu'il y avait tout un monde. C'est toute une branche dans laquelle il y a des gens qui évoluent, qui sont vraiment spécialisés dans ce qui est montage de projets d'investissement et tout, avec tout l'aspect technique. Là-bas, l'aspect technique, ce n'est pas la technique de ce que nous, on connaît dans le génie civil, mais c'est l'aspect financier qu'on appelle, d'accord, l'aspect technique là-bas. Voilà.
Donc, la technique permet d'avoir une vision un peu plus pointue sur ce qu'il y a à faire comme investissement.
Voilà. C'est ça. Parce que à la base, c'est de la logique. Je veux dire, c'est des maths, c'est des calculs, mais c'est beaucoup plus de logique. Et la technique, mine de rien, on est beaucoup amené à faire de la logique. Beaucoup amené à faire de la logique. Du coup, actuellement, c'est vraiment mon principal challenge, c'est de pouvoir exceller dans ce domaine-là, surtout dans l'aspect montage de projets d'investissement et tout. Voilà. C'est vraiment quelque chose pour lequel qu'on n'apprend pas à l'école. Oui. Et la boîte dans laquelle je suis, c'est vraiment un métier qui est taillé sur mesure, c'est un métier maison, qui est propre à, je veux dire, qui ne s'apprend pas d'ailleurs, mais qui ne s'apprend que lorsque on est à cette fonction-là. Mm-hmm. Et donc, c'est le principal challenge dans lequel auquel je suis confronté aujourd'hui. Donc, ça me demande de faire une révision, pas une révision, mais d'explorer ce qui est aspect finance d'entreprise, ce qui est aspect comptabilité, ce qui a trait aux investissements, aux méthodes d'investissement, aux calculs de rentabilité et tout. Voilà, et donc, je trouve ça assez intéressant, c'est motivant. C'est un challenge parce que c'est quelque chose que, comme je le dis, que tu découvres quand tu rentres là, oui, et auquel tu es confronté. Il faut apprendre, il faut devenir bon, il faut que tu sois le meilleur là-dedans pour pouvoir motiver, justifier tes projets, justifier tes choix. Voilà. Parce que, comme tu l'as dit, comme je l'ai dit, le maître de droite, c'est lui qui dit ce qu'il faut faire. Ouais. Mais lorsqu'il dit ce qu'il faut faire, il faut qu'il puisse le justifier.
Bien
sûr. Surtout dans un cadre commercial. Voilà. Il y a beaucoup plus de personnes qui regardent pourquoi tu as choisi ça, quelle est la rentabilité qu'on pourra tirer sur cette infrastructure qu'on veut faire ici. Voilà. Donc, c'est ce challenge auquel je suis confronté aujourd'hui.
D'accord. C'est intéressant de savoir ça. On tend vers la fin de ce podcast. Par contre, j'aimerais savoir, est-ce que tu as des techniques pour garder une productivité? Parce que en tant qu'être humain, on est souvent productif et plus souvent, on baisse vraiment de productivité. C'est quoi tes techniques, toi?
Vraiment, j'ai pas beaucoup de techniques. La seule technique à laquelle je m'accroche, c'est vraiment c'est une heuristique, c'est même pas une technique. Donc c'est une heuristique, c'est une sorte de sagesse un peu contre-intuitive et qui te permet de guider tes choix. Oui. Donc cette heuristique l'a dit, c'est que face à deux situations, voilà, il faut toujours choisir celle qui te met le plus en difficulté dès maintenant. B, en fait, faire un autre travail, et que l'option B est facile à dérouler, mais les problèmes vont généralement se venir devant, donc les problèmes sont différés à plus tard, ou l'option A, ou dès le départ, c'est l'option la plus difficile, mais une fois qu'on a passé ce cap-là, le chemin devient beaucoup plus facile. Donc l'heuristique dit qu'il faut toujours choisir l'option A. Donc c'est vraiment cette
heuristique que j'utilise.
Voilà, ce qui est plus compliqué à l'instant T, faut se frotter à ça. Donc quand je suis face à un travail que je commence à procrastiner et tout, je me dis bon, procrastiner c'est l'option B. Donc, je peux me choisir de ne rien faire, d'être bien comme ça, assis là, mais les problèmes vont survenir demain ou bien dans quelques heures. Alors que si je me mets à travailler dès maintenant, ça m'énerve, j'ai pas envie de faire, j'ai envie de faire autre chose. Mais si je me force à faire ça maintenant, une fois que j'ai passé l'étape de l'ennui, après, ça deviendra beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'est vraiment cette heuristique que j'utilise au jour le jour. J'essaie de me confronter toujours aux choses les plus difficiles, le plus rapidement possible.
D'accord.
Pour avancer.
Si, j'ai bonne
mémoire. Donc, c'était l'astuce que je peux partager aux auditeurs.
D'accord. Si j'ai bonne mémoire, je pense que Naval en a parlé dans son livre.
Probablement.
Oui. Mais bon, tout compte fait, dans la description de l'épisode, je vais mettre tout ce qui concerne tes travaux, ton profil LinkedIn et aussi la ressource que tu as mentionnée qui est le livre de Naval. Super. Dernière chose, qu'est-ce que tu dirais à ton toi à Ntakpe en première année d'ingénieur?
Je lui dirais, ça c'est une autre heuristique aussi que j'ai découvert dernièrement. Et elle dit que quand on est face à des choix, il faut choisir le choix qui nous donne le plus d'options. C'est-à-dire que il faut toujours choisir entre deux choix A et B. Si l'option B t'offre peut-être un seul chemin après que tu l'aies choisi, et que l'option A t'offre peut-être trois chemins après que tu l'aies choisi, il faut toujours choisir l'option A, de celle qui offre toujours le plus de chemin. Donc, je dirais à un TACP de première année d'ingénieur, pense les choses qui vont t'ouvrir le maximum de portes. Voilà.
Exemple, les choses, l'anglais. Ne pas.
Voilà, par exemple, l'anglais. L'anglais, c'est quelque chose qui t'offre le maximum de possibilités. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, dans la société dans laquelle je suis, chaque mois, tout c'est une multinationale. Donc, on est dans la même entreprise, c'est surtout dans plus de 23 pays en Afrique.
Ouais.
Et chaque mois, on a des réunions qu'on fait exclusivement en anglais.
Wow.
Exclusivement. Et le choc même a été, parce que quand j'ai fait l'entretien et que je suis rentré, on ne m'avait pas parlé de ça. L'entretien, à aucun moment, on a parlé de est-ce que j'avais le niveau en anglais et tout. Rien du tout. Voilà. Donc, j'ai fait l'entretien et tout. Le troisième jour de la première semaine à laquelle je suis, du job, on me dit que bon, j'ai une réunion, là, voilà, que je passe par une réunion qui se fait au niveau international et tout, et c'est une réunion par Skype. Et genre, dans la réunion, on ne parle qu'anglais. Tout le monde ne parle qu'anglais. Il n'y a pas un mot de français qui te... Et ce n'est pas de l'anglais académique, moi je veux dire l'anglais de l'école, c'est l'anglais professionnel, l'anglais des gens qui le parlent tout le temps avec tous les thèmes techniques qu'il faut. Déjà, il y a des thèmes techniques de génie civil qui sont utilisés, les thèmes techniques de finance qui sont utilisés, les thèmes techniques d'investissement qui sont utilisés. Ouah, ça a été vraiment une journée assez terrible parce que... Je ne m'y attendais pas. Voilà. Et donc, c'est là que j'ai vu que ouais, franchement, l'anglais, c'est quelque chose d'incontournable. Il ne faut pas hésiter. Il faut vraiment s'y mettre. Si à l'occasion, pour les auditeurs qui nous écoutent, s'ils ont l'occasion de pouvoir même aller au Ghana, qui n'hésitent pas, quoi. Aller au Ghana pendant leurs vacances ou pendant les jours où ils sont off, aller au Ghana faire un séjour d'immersion. Voilà, ne serait-ce que pour délier la langue, ce serait pas mal. Parce que l'anglais, mine de rien, on a beau être l'apprendre dans les livres, c'est vraiment qu'on est confronté à quelqu'un qui est
à la réalité,
à la conversation, à la réalité, qu'on se rend compte que franchement, il y a des choses qu'il faut corriger, il y a des choses qu'il faut adapter, il faut bosser sur certaines choses et tout, voilà. Et c'est même là qu'on se rend compte que il faut s'habituer à parler, voilà. Il faut s'habituer à parler. Et donc, c'est comme tu l'as si bien souligné, l'anglais, c'est vraiment une des choses qui offre le plus d'options. Donc, il faut prendre au sérieux dès le départ, même si on fait un métier technique. Voilà, c'est comme les options avec l'anglais sont presque infinies, au moment dans lequel on est. Là. Ouais. Donc, il ne faut pas hésiter. Quoi.
D'accord. Ben, Jérémy, ce fut un plaisir de te recevoir. Et j'ai beaucoup appris. J'espère que les auditeurs aussi apprendront beaucoup de ce podcast.
Ouais.
Et vraiment, on reste en contact. C'est pas exclu que tu repasses sur ce podcast. Tu nous as trop appris.
Pas de souci.
Merci.
Il y a pas de souci. Je serai enchanté.
Ok.
En tout cas, merci à toi pour l'occasion que tu me donnes de pouvoir m'exprimer, partager. Et j'aime bien je tenais à te dire que également, tu me trouves. Tu trouves que je dénote. C'est-à-dire que je suis différent. Mais également, tu es différent. Parce que. L'idée de lancer un podcast, peut-être que elle est dans la tête de beaucoup de personnes, mais personne n'a osé faire ça. Voilà. Personne n'a osé faire le pas. Et comme on le dit souvent, seule l'exécution compte. C'est pas les idées qui comptent, c'est celui qui fait qui compte. Voilà. Comme les Anglais disent, execution matters. Donc je disais que ton initiative est la bienvenue parce que elle nous permettra de pouvoir diffuser encore plus les idées relatives au génie civil. Et permettra de motiver encore beaucoup plus de personnes à embrasser ce métier-là, qui est un métier qui est digne d'intérêt, qui est aussi intéressant.
Effectivement. Merci beaucoup. Et ce fut vraiment un plaisir de te recevoir, d'avoir pu partager avec toi les informations durant ce premier épisode.
D'accord.
Et je pense qu'on va se retrouver sur le podcast.
Ça marche.
Merci bien.
Je t'en prie, merci à toi.
Ok, au revoir.
Bye bye.